Sixième partie. Nuit debout. 52. 19h30. Un tête-à-tête, pensait Layli. Sa vie de famille se résumait à un tête-à-tête avec Tidiane.
Ils reviennent quand, Alpha et Bambi ?
Je ne sais pas, mon chéri. Layli ne mentait pas. Elle n'avait aucune nouvelle de son fils et de sa fille depuis ce matin. Elle avait téléphoné, laissé de longs messages sur répondeur, des courts textos avec plus de points d'interrogation que de mots. Sans réponse. Tidiane jouait avec ses macaronis froids. Enfilait en brochette les rondelles de saucisse Herta au bout de sa fourchette. Les trempait dans le ketchup, les grignotait sans appétit. Layli essayait autant qu'elle le pouvait de calmer les idées qui chahutaient dans sa tête, de les faire patienter dans un coin le temps de ce repas. Parler à son fils. Sourire, questionner. Alors l'école? La récré? Les copains? Tous les enfants du monde passent un véritable interrogatoire chaque soir, alors que les adultes, eux, ne racontent rien. Surveillez vos enfants. Ce soir, elle n'y arrivait pas. La menace de Jourdain Blanc-Martin continuait de la hanter. Je n'ai qu'un mot à prononcer, et tout ce que vous avez patiemment construit sera perdu. Blanc-Martin bluffait-il ? Vous devez nous aider à trouver votre fille Bambi. Blanc-Martin semblait croire que Bambi avait assassiné ces deux hommes dans les Red Corner, exactement comme les trois flics du commissariat. Ridicule. Elle revoyait Bambi hier soir quitter la table sans manger en lui annonçant qu'elle avait rendez-vous avec Chérine au KFC. À la même heure, elle l'avait lu dans le dossier au commissariat. La meurtrière de Jean-Loup Courtois dînait avec lui dans un restaurant gastronomique à Dubaï. Cette femme ne pouvait pas être Bambi. Mais que valait le témoignage d'une mère? Que valait le faux témoignage de Ruben? Pourquoi sa fille ne la contactait-elle pas? D'ordinaire, jamais elle ne laissait passer une journée sans donner de nouvelles. Les idées grises moutonnaient dans son crâne. Les balayer, s'obligea à réagir Layli. Les balayer. S'occuper de Tidi. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri?
J'ai perdu mon ballon. Le ballon d'Alpha.
Ton ballon doudou?
C'est pas mon doudou,
bouda Tidiane. Layli pesta contre sa maladresse. Tidiane l'abandonnerait dès qu'il aurait grandi, comme Alpha, comme Bambi. Elle avait tout fait à l'envers. Elle n'était pas capable d'être mère.
Il est parti dans le trou, maman.
Papy Moussa t'aidera à le chercher demain. Mange. Mange, mon chéri. Tidiane s'était endormie. Layli lui avait lu une histoire, sa préférée, Les 12 travaux d'Hercule. Il avait commencé à respirer plus doucement au 4e, avait fermé une première fois les yeux au 7e, s'était réveillé au 9e, le voyage chez les Amazones. Avait tenu en se frottant les paupières jusqu'au 11e, la fameuse récolte des pommes d'or du jardin des Hespérides, avant de s'endormir en même temps qu'Hercule descendait en enfer croiser Cerbère. Layli observa de longues secondes son garçon respirer, épuisé, submergé par des émotions contradictoires. La couverture n'était pas tout à fait remontée sur son pyjama. Elle hésita, partagée entre la peur qu'il ait froid et la crainte de le réveiller. À pas de loup, elle se recula et, du bout du doigt, plongea la chambre dans le noir. Sitôt seule, elle consulta son téléphone. Toujours aucun message. Comme à chaque fois, une goutte d'acide se déposa sur son cœur. Elle aussi aurait voulu, comme son petit bonhomme, s'endormir, tomber comme une masse en laissant retomber la pression. Elle avança vers le balcon. Le silence de Bambi et d'Alpha, inévitablement, la ramenait aux menaces de Blanc-Martin. Elle se sentait aussi impuissante que ces mères à qui on annonce que les aides sociales cesseront si leurs enfants ne retournent pas à l'école. En pire. En tellement pire. Elle ouvrit la porte-fenêtre et sortit une cigarette. Elle voulait oublier Blanc-Martin. Elle voulait aussi chasser ses deux prénoms, François et Jean-Loup. Ces deux prénoms qui venaient de ressurgir de sa mémoire. Deux prénoms suivis de noms qu'elle ignorait avant cet après-midi. François Valioni, Jean-Loup Courtois. deux anciens amis d'Adil, deux anciens clients, même si encore aujourd'hui, elle répugnait à utiliser ce mot, assassinée dans une chambre d'hôtel. Ça ne pouvait pourtant être qu'une coïncidence. Elle n'avait parlé à personne de ses anciens clients. À Ruben ou Guy, peut-être, mais sans mentionner d'autres détails qu'un prénom. Seul son cahier rouge, celui qu'elle avait dicté jadis à Nadia, contenait davantage de précisions. Mais pouvait-on parler de précision pour qualifier le récit d'une aveugle? Personne d'autre qu'elle ne l'avait jamais lu. Il était là, caché sous son lit, depuis des années. « Une coïncidence », répéta Layli dans sa tête pour mieux s'en persuader. La police piétinait, n'avait aucun mobile, aucun coupable. Alors elle fouillait dans le passé des victimes pour retrouver n'importe quel indice. Qu'avait-elle à voir avec ces hommes? Tous les types qui passent leur vie dans des hôtels doivent fréquenter des prostituées. Elle n'avait été que l'une d'entre elles, quelques mois, il y a plus de 20 ans, dans une autre vie. Elle sortit son briquet et s'étonna de la facilité avec laquelle la flamme résistait au vent du large. Le mistral entre les tours des Aigues Douces s'était calmé. Il avait fui au large. Dans le reflet de la lune, le spot du phare de Port-de-Bouc et le halo des réverbères sur les quais, on apercevait le grand drap noir de la mer s'agiter, comme si toutes les créatures marines faisaient l'amour dessous, grondaient, soupiraient, s'amusaient à secouer les paquebots qui, au loin, entraient dans le port de Fos-sur-Mer. La fumée d'une cigarette vint agacer ses narines, se mêler aux volutes de la sienne. Parfum de blonde. Guy fumait au balcon du dessous. Layli se pencha. « C'est la mi-temps ?»«
Même pas. J'ai le choix entre la Coupe du Monde de fléchette ou l'AWBA, le championnat américain de baseball féminin. »
La voix éraillée de Guy couvrait à peine le bruit des vagues. Elle se pencha davantage pour l'entendre. Comme souvent chez elle, elle avait enfilé une robe pagne. Celle de ce soir était large, très échancrée et lui arrivait aux genoux. Elle n'avait aucune idée de ce que, dans la pénombre, Guy pouvait distinguer de sa nudité. Rien, peut-être. Ou presque tout. Elle s'en fichait. Elle laissait les ultimes forces du Mistral la caresser.
« Vous faites quoi, alors ?»«
Pareil que vous. Je regarde la mer. »
Guy se tut un instant, comme pour laisser à Layli le temps de parcourir des yeux le panorama infini.
On n'a pas encore inventé de plus grand écran plasma.
Les derniers souffles de vent parfumaient le balcon d'une fine vapeur iodée. Sa peau sous sa robe pagne était douce et humide. Layli avait envie de tendresse.
On la voit mieux d'ici. Montez.
J'amène des bières.
Du vin plutôt. Beaucoup de vin.
Layli avait envie d'amour. Guy était comme elle, un cabossé de la vie. Elle l'embrassa avant même qu'il ait accroché sa veste. Elle le laissa poser sa bouteille, un coteau du Libron. Elle ne connaissait pas. Il allait commenter le cépage, le tanin, la couleur du raisin. Elle l'embrassa avant. « Viens !» Elle l'entraîna sur le lit. Guy portait encore sa veste de jean, un pull de laine torsadé dessous, sans doute une chemise, un maillot, un pantalon de velours, des chaussettes, de grosses bottines Mustang. Au strip poker, il aurait pu perdre toute une nuit sans se retrouver tout nu. Layli laissa les mains de Guy s'aventurer sous son pagne, sa bouche courir au creux de sa gorge, ses paumes écraser ses seins, sa bouche embrasser ses épaules, ses doigts parcourir son ventre, sa bouche baiser son cou. Son majeur s'invitait en elle, sa bouche dévorait la sienne, cambrée, avide, pressée. Déshabille-toi. Guy mit un temps infini, assis sur le rebord du lit, à ôter les nœuds serrés de ses mustangs. Excité, énervé, un enfant de 6 ans oubliant comment défaire ses lacets. Layli s'était assise en boule, les genoux contre sa poitrine. Elle vérifia du regard que la porte de Tidiane était bien fermée, sur l'étagère que l'ordinateur était éteint. qu'elle n'avait rien oublié, puis posa à nouveau un regard attendri sur Guy. Il avait vaincu une bottine, semblait reprendre son souffle avant de s'attaquer à la seconde. Peut-être n'était-il pas si pressé de se déshabiller. Peut-être avait-il tout simplement peur qu'elle pose son regard sur lui, nu. Le corps de Layli palpitait. Sa peau conservait la trace des caresses presque douloureuses et des baisers trop mouillés de Guy. En réclamait encore. Elle n'avait pas fait l'amour depuis des mois. Quasiment jamais au cours des 10 dernières années. Guy avait envoyé valser sa seconde chaussure. Tout irait vite maintenant. Pantalon, caleçon, chaussettes. La plupart des amants qu'elle avait connus n'avaient pas de visage. Jusqu'à cet après-midi. Devant les yeux de Layli, ceux de François Valioni et Jean-Loup Courtois se superposèrent au décor de la pièce, tels des fantômes ayant enfin retiré leur suaire. Ils étaient comme elle les avait imaginés toutes ces fois où elle s'était donnée à eux. François, beau et trop sûr de lui. Jean-Loup, fragile et émouvant. Guy avait ôté le haut, les trois couches, de jean, de laine, de coton. Il resta les bras croisés sur son ventre, comme s'excusant de ne pas pouvoir enlever la dernière, de graisse. Gros, gauche. Je veux lire dans tes yeux que tu me trouves beau. Après les visages de François et Jean-Loup, les mots d'Adil revenaient la hanter. Les premiers qu'il ait prononcés pour lui faire accepter son atroce chantage affectif, ce souhait odieux auquel elle avait cédé, pour lequel elle s'était prostituée, pour lequel elle avait assassiné. Les visages de Jean-Loup et François s'effaçaient, laissant place à leurs cadavres. L'excitation laissa soudain place au dégoût. Ses sens la trahissaient. Le corps de Guy n'inspirait pas le désir. Son visage éteint n'attirait pas l'étreinte. Son dos, sa nuque, courbée, n'appelait pas la passion. Il lui souriait pourtant, désolé, déjà prêt à se rhabiller. Layli se leva pour tenter de sauver l'amour ou ce qu'il en restait. Elle croisa les bras, ses mains saisirent le bas de sa robe pagne et la soulevèrent, la passèrent au-dessus de sa taille, de ses épaules, de ses cheveux, et la laissèrent retomber sur le lit comme une peau morte. Elle se tint nue, debout devant lui. Elle se savait si désirable encore. Ses seins de miel, sa taille cintrée ceinturant l'invisible colline de son ventre, grignotée par le duvet de sa forêt, interdite. Une femme inaccessible à un homme comme lui. Layli lut ce désir dans les yeux de Guy, ce désir incontrôlable de petit garçon, cette adoration. Comme jamais, elle se sentit belle. Les yeux clairs de Guy pétillaient tout autant qu'il pleurait. Alors, elle le trouva beau. Il se leva, la prit dans ses bras. Il avait compris. Deux cabossés de la vie. Elle vérifia une dernière fois que la porte de Tidiane était bien fermée, puis murmura tout bas. « Viens. » Pour quelques heures. Même pas une nuit. Unie. Layli avait enroulé une couverture autour d'elle et fumait sur le balcon. Guy était allongé dans le lit. Il avait tiré le drap sur son torse. Ils avaient fait l'amour trop vite. Un brouillon. Il avait envie de recommencer. Au propre. De prouver à Layli qu'il pouvait faire mieux. Au balcon, Layli pleurait. Bizarrement, pour la consoler, Guy employa le vouvoiement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Layli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bambi, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie. Bien sortie. Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Non. Oh non, nous ne formons pas une jolie famille. Il nous manque l'essentiel. Un papa ? Layli lâcha un petit rire. Non, non. Un papa ou même plusieurs, on peut bien s'en passer tous les quatre. Qu'est-ce qu'il vous manque alors ? Les yeux de Layli s'entrouvrirent comme un store qui laisse filtrer un rayon de soleil et éclaire une chambre sombre. Transforme en étoile la poussière.
Vous êtes bien indiscret, cher monsieur. On se connaît à peine, et vous croyez que je vais vous révéler mon plus grand secret ? Il ne répondit rien. Le store des yeux de Layli s'était déjà refermé, replongeant l'alcôve dans l'obscurité. Elle se tourna vers la mer, cracha sa fumée pour noircir les nuages. « C'est davantage qu'un secret, monsieur le petit curieux. C'est une malédiction. Je suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. » Elle ferma les yeux. Il demanda encore « Qui l'a lancé, ce sortilège ?» Derrière le volet clos de ses paupières gronda l'éclair. « Vous, moi, la terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. » Layli n'en avait pas révélé davantage. Elle s'était à nouveau allongée dans le lit contre Guy, nue, câline, tout en le prévenant qu'il ne pourrait pas rester, que son fils allait se réveiller, qu'il était hors de question qu'il le trouve dans le lit canapé du salon. Guy avait compris. Mais tel un sultan oriental qui quémande un nouveau conte à sa Scheherazade pour retenir la nuit, avait réclamé la suite de l'histoire. Son histoire. Layli se serra contre lui. Elle ne devait pas peser plus de la moitié de son poids. Elle repoussa doucement le bras qui voulait se poser sur son sein, la main qui voulait se glisser entre ses cuisses. « Sois sage. Tu voulais connaître la suite de mon récit ?» Les mots lancés par Jourdain Blanc-Martin ce soir devant la cage d'escalier cognaient encore. « Vous aimez raconter votre histoire, Layli. Qui pourrait vous en blâmer ? On vous croit sur parole, on vous fait confiance, vous séduisez. Vos voisins, vos enfants, jusqu'aux policiers. Comment pourraient-ils se douter qu'ils se font tous superbement manipuler ? Elle se tourna vers Guy. Elle tremblait. Le sourire innocent de Guy lui redonna un peu de courage. « Je n'ai rien inventé, tu sais. Il faut me croire. C'est le récit de ma vie de clandestine. Il faut me faire confiance jusqu'au moindre détail. Tout ce que je raconte est vrai.